France Culture.
Esprit de justice qui, ce soir, va se demander de quoi le Trumpisme est-il le nom. On ne sait quel qualificatif utiliser pour caractériser la nouvelle idéologie qui se met en place un peu partout à travers le monde, y compris chez nous, devant nos yeux, et dont Donald Trump est le porte-drapeau. Alors, les politologues parlent de régime illibéral ou encore de régime autoritaire compétitif parce qu'il y a des élections, en se plaçant du point de vue du régime. D'autres n'hésitent pas à employer le terme de fascisme, ce qui peut paraître inadapté dans les circonstances. Circonstances historiques ont changé, le terme risque en plus de devenir une accusation en soi et de bloquer la pensée. Fascisme répond à une définition précise historiquement et surtout, il réunit un certain nombre de traits dont certains se retrouvent aujourd'hui et d'autres non. Faut-il parler de populisme numérique ? Cela semble plus adapté, mais ce n'est pas exempt non plus de stigmatisation. Mais il y a un trait qui semble unir toutes ces idéologies, c'est une même détestation de la forme, une même aspiration à l'immédiateté, une même impatience au changement, une même défiance à l'égard des juges. Le droit et les institutions sont perçus comme des obstacles à une vraie démocratie, vraie bien sûr entre guillemets. Toute forme est vécue comme dilatoire, comme est suspectée de couvrir des arguties juridiques, expression qui revient fréquemment dans les discours aujourd'hui et pas uniquement à l'extrême droite. L'état de droit devient une option et non plus une condition de la démocratie. La forme n'est plus la sœur jumelle de la liberté, mais bien plutôt son frère ennemi. La vérité est désormais affaire d'évidence et non plus de science et de patience. Et puisque c'est dans le rapport au droit et au juge que se manifeste ce nouveau type de régime, de pensée ou d'idéologie, esprit de justice s'est tourné vers un juriste et un philosophe du droit pour y voir plus clair en invitant Olivier Jouangean. Olivier Jouangean est professeur de droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Il est professeur honoraire à l'université Albert Ludwig de Fribourg in Breisgau en Allemagne. Et on lui doit une histoire de la pensée juridique en Allemagne, 1800-1918, et plus récemment, un autre ouvrage dont il va être plus précisément question ce soir, Justifier l'injustifiable, l'ordre du discours juridique nazi. Et ces deux ouvrages ont été publiés dans la collection Léviathan au PUF.
France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Bonsoir Olivier Jouangean.
Bonsoir Antoine Garapon.
Et merci d'avoir répondu à mon invitation.
Alors mais merci de m'avoir invité.
oui, mais alors on va. Je vous ai invité parce que vous avez réfléchi beaucoup sur la pensée allemande. Et je ne veux faire aucun rapprochement avec le point Godwin, qu'on soit bien d'accord. L'idée est de comprendre quels sont les éléments qu'on peut prendre dans l'histoire de cette grande pensée juridique et qui a pu donner et qui a pu être acceptée, détournée par le régime nazi. Vous faites une première distinction que je trouve intéressante pour comprendre comment fonctionne le droit. Vous dites dans le droit, il faut distinguer le récit, le contenu du droit, sa narration, et la grammaire. Pourquoi cette opposition, Olivier Jouangean ?
Bon, j'ai commencé par dire que, comme vous venez de le rappeler, je ne suis pas un spécialiste des États-Unis, mais plutôt de l'Allemagne. Oui. Et donc, mais la question que vous posez, je vous remercie de l'avoir posée ainsi, c'est de quoi le Trumpisme et pas de quoi Trump.
Bien sûr.
Est-il le nom ? Donc, ça n'est pas. Moi, je dirais qu'il est le nom qui dit déjà beaucoup plus que les discours et les actes de Trump lui-même, précisément. Au fond, il est un symptôme d'une certaine manière actuelle de produire du discours politique et aussi de la politique. Donc, c'est un mode, le Trumpisme, je si je peux le qualifier comme ça, c'est un mode de production du discours politique et de la politique. C'est un mode de production, comme aurait dit quelqu'un il y a longtemps. Donc, moi, je vais pas parler de Trump spécialement. On va dépasser Trump et sa petite personne. Et comme vous le dites, effectivement, et peut-être je vais simplement dire l'argument très, très brièvement du livre, parce que ce qui était frappant, ou ce qui frappe et ce qui horrifie, quand on analyse, qu'on regarde ce qui s'est passé, tellement vite. Dès 1933.
Quelques années.
Dès la prise de pouvoir, ça va très vite. Donc de Hitler. Hein. Dans la construction des discours nazis du droit. Par des juristes qui ont été formés dans de très grandes facultés de droit. Peut-être les meilleures facultés de droit au monde, à cette époque en tout cas. Et comment ils ont renversé tout le droit. Mais comme l'a dit Carl Schmitt, pas besoin de changer une seule virgule au code civil. C'est par interprétation, et l'interprétation, ça veut dire on modifie le contenu conceptuel du droit. On travaille les concepts et on les inverse. C'est pour ça que la deuxième partie, j'ai intitulé ça « Inversion ». Conversion, inversion.
Pour leur faire dire le contraire de ce pourquoi ils étaient écrits.
Et que ça vient de juristes qui ont été formés dans une très longue tradition, parce que, on le disait tout à l'heure, c'est le pays du droit, historiquement, l'Allemagne. Donc, ce qu'on modifie, c'est la grammaire. Ce que j'appellerais la grammaire générative, oui, sans faire référence à Chomsky, mais qui permet la production du narratif, de la narration, du récit, du contenu du droit. Donc, voilà.
C'est ça que
j'appelle aussi par mode de production. Oui. L'exemple le plus simple, c'est... le plus simple. Comment les juristes allemands, à partir de 1933, ne rejettent la catégorie de personne, qui est quand même une catégorie un peu centrale dans le droit,
oui,
je crois.
Oui, essentielle même, oui.
Un peu essentielle. Et donc aussi la détermination des capacités juridiques. Et on rejette les notions de personne, de sujet de droit, etc. Pour la remplacer par un autre concept, soi-disant plus concret, plus proche du réel, qui est la notion de position ou situation en tant que membre de la communauté. Et là, vous faites une gradation entre les personnes. Donc, vous détruisez de l'intérieur l'égalité, même si vous pouvez dire « Ah non, mais traiter... » Alors, même pas prendre l'exemple du juif, parce que c'est trop... Hein, mais celui-là qui a un peu de sang halogène, différemment de l'allemand, du bon allemand, c'est respecter l'égalité. Ils pourraient même dire l'égalité réelle, puisque leur concept est plus proche du réel. Hein? Donc, par exemple, moi, je me souviens d'une décision de tribunal administratif, hein, un petit truc, tu sais, qui justifie l'interdiction de l'accès des Juifs aux bains, douches municipaux. Au nom de l'égalité. Mais là, on voit bien comment tout s'est inversé.
Une inversion.
Comment tout s'est inversé. Parce que vous avez exclu la catégorie de personne et le sujet de droit. Il y a un refus absolument du sujet de droit, des droits subjectifs, etc.
Oui, parce que on parle de l'ordre concret. Alors ça, c'est important, oui, c'est ça. L'ordre concret. Et aujourd'hui, on voit retrouver un petit peu, c'est formulé à l'inverse, mais c'est ça que ça veut dire, le droit, c'est abstrait. Le droit, ce sont des abstractions. Le droit, c'est des formalités, ce sont des arguties, et qui nous empêchent, et qui empêchent le peuple, d'avoir accès au pouvoir, et qui finalement, lequel peuple repose sur le bon sens, sur l'évidence, sur le concret.
Ah oui, le concret, bon, c'est comme l'a dit un historien de ce droit nazi, ça a été un phénomène de mode sous le nazisme. Mais moi, je vais rajouter une anecdote, mais qui est très significative. Et ça m'a vraiment frappé quand je suis allé juste après la réunification ou l'unification, ce qui est plus correct à mon avis, l'unification des deux Allemagnes. Je suis allé à Leipzig et j'ai pu converser avec des jeunes étudiants qui avaient commencé leurs études sous la RDA et qui l'a continué en ayant des cours de professeurs qui venaient d'Allemagne de l'Ouest pour l'essentiel. Et ils étaient déboussolés. Ah oui, et sur cette question.
C'était pas leur grammaire.
C'est tellement abstrait, votre droit. Nous, c'était tellement plus concret. Bon, c'est un argument qui n'est pas faible, à mon avis, pour dire faisons attention à notre envie de concret. Oui. Le droit, ça doit prendre de la distance.
Par définition.
Par définition. Ou alors c'est... Bon, on peut continuer à appeler ça du droit, mais c'est pas du droit.
Alors, il y a aussi cette défiance à l'égard des institutions. Ça, c'est défiance à l'égard des institutions. On va pouvoir la déconstruire, pour prendre un terme. C'est-à-dire que on est frappé de la langue de Trump, la manière dont il parle, qui est une manière très désinhibée, où il a un anglais assez relâché, mais très efficace, qui parle directement. Par certains côtés, même, on a l'impression que la langue elle-même porte ça, une sorte de force, voire de rapport de force, voire d'intimidation.
Oui, oui, mais ça, on l'a vu dans la célèbre entrevue Trump, G.D. Vance et Zelensky. Et ce qui est très frappant, quand on regarde ces images, c'est d'abord que la discussion diplomatique, mais j'ai envie de mettre des guillemets, se passe en direct sous l'œil des caméras, que Zelensky, je ne sais pas si c'est lui qui a refusé ou si c'est l'administration des États-Unis qui ne lui ont pas proposé, mais il n'a pas de traducteur. Et je crois que ces images montrent cette fantastique force de désinstitutionnalisation du pouvoir, de l'État, du politique. Et ça rejoint, à mon avis, très en profondeur, cette question de la détestation des formes, des procédures, des grammaires abstraites, des concepts abstraits. Et qu'on voit aussi dans la détestation de la justice, parce que la justice, elle, même aux États-Unis, elle est très formalisée, d'ailleurs.
C'est
la procédure, c'est ça.
Elle occupe même une place centrale. Elle occupe une place centrale. C'est comme l'avait remarqué Tocqueville, c'est ce qu'il y a de plus aristocratique dans la démocratie américaine. Moi, je pense à une autre image qui était choquante, quoi, qui m'a choqué personnellement, c'est de voir Elon Musk avec son enfant sur les bras, sur les épaules, dans le bureau ovale. Et on a l'impression que tout ça participe d'une volonté de désacralisation de cet endroit mythique du salon. Du bureau ovale, qui est le bureau dans lequel, précisément, c'est le bureau des formes, quoi. On doit respecter les formes diplomatiques ou autres, l'étiquette dans le bureau ovale.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord.
C'est-à-dire que il y a cette désacralisation, veut dire que pour pousser un peu le raisonnement, ça voudrait dire que on ne respecte plus les formes parce qu'on ne respecte pas la représentation. On ne respecte pas cette mise à distance qui donne ce côté effectivement un petit peu emprunté, qu'on peut donc qui ne fait pas forcément très 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 authentique du langage diplomatique. Mettre des formes, ça c'est quelque chose qui disparaît dans le trumpisme, disons, un peu loin ainsi.
Oui, ça disparaît dans le trumpisme, et pas seulement, pas seulement, mais à ce point-là, de cette manière-là, cette manière de faire, elle est quand même assez extraordinaire. On voit pas ça chez Poutine, on voit pas ça chez Erdogan, on voit pas ça chez Orban non plus. Donc, ça, c'est vraiment très caractéristique pour moi. Peut-être c'est comment le nouveau président argentin. Que...
Oui, Milei.
Milei, voilà, je cherchais son nom. Peut-être ça se rapproche, mais au fond, il y a quelque chose de profond, de plus profond, qui n'est pas seulement politique ou étatique, mais aussi social. C'est-à-dire, c'est ce grand désir d'immédiateté, le mot que vous avez utilisé dans votre présentation, et qu'on voit partout, et pas seulement chez les politiques, hein, mais les réseaux sociaux, par exemple.
Oui.
On ne pense pas avant d'écrire. On respecte des formes et des formes brèves. Moi, je suis effaré par l'apparition et l'expansion indéfinie des shorts, comme on dit, des petites vidéos, TikTok, etc. Bon, on avait déjà eu ça avec Twitter, 140 signes, hein, je crois.
J'utilise pas Twitter. C'est un peu augmenté, non.
C'est un peu augmenté, mais... Oui. Bon, la brièveté pour... Tout se ramasse. Et il y a un grand désir d'immédiateté qui se traduit politiquement, pour moi, par un grand mythe de, populiste. La volonté populaire, elle s'exprime. Et la question qu'on me pose alors, c'est comment? Je suis frappé de voir que ces discours populistes, mais aussi des discours des gens ordinaires, et pas seulement en France. Mais ça, l'appel au peuple, bon, c'est... On ne se pose pas la question principale. C'est-à-dire, mais comment on fait parler le peuple? Et là, on a besoin de forme. On a besoin de forme.
C'est d'autant plus évident pour le Front National et Marine Le Pen, d'ailleurs, qui est un mouvement qui n'existe que dans l'élection, que par l'élection, par son pourcentage. Et qui, plus elle perd en contenu idéologique et en identité politique, plus elle gagne en voix.
Oui, mais moi, je n'ai rien contre, a priori, il faudrait en discuter les conditions, mais rien contre l'introduction d'un référendum d'initiative citoyenne. Je préfère même initiative citoyenne à ce qu'on appelait autrefois l'initiative populaire. Non, citoyenne, oui, mais ne croyons pas qu'on fait parler le peuple comme ça, une sorte de peuple qui serait immédiatement présent à lui-même. Non, ça nécessite des procédures, des formes. Il faut combien de citoyens, qui a le droit de vote. Donc, on peut pas faire la démocratie contre le droit,
oui.
Parce que les conditions d'expression démocratique sont nécessairement procéduralisées et déterminées par le droit.
Parce que le droit a une capacité instituante. Et dans le fond, c'est ça qui est un peu dangereux, c'est ça qui est glaçant dans cette nouvelle idéologie, c'est qu'en refusant le droit, on a l'impression qu'il refuse toute institution, qu'il refuse tout héritage, qu'il refuse toute intronisation par le passé et par les traditions politiques et ce qu'elles ont donné comme culture de l'échange.
Oui, je crois que tout ce qu'on vient de dire, d'essayer de cerner un peu, tout ça se tient, quoi. Ce désir d'immédiateté, ce rejet des formes, ce fantasme ou ce mythe politique de la démocratie directe, comme si elle pouvait être immédiate. Hein ? Moi, je n'aime pas du tout démocratie directe. La démocratie, aujourd'hui, elle est toujours indirecte. Parce qu'il y a des médiations. Le rejet de la représentation, tout ça se tient.
Thank you.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur ce qui constitue l'idéologie du trumpisme, et notamment dans son rapport au droit et sa détestation des juges, en compagnie d'Olivier Jouangean, qui est professeur de droit, philosophe du droit, spécialiste de la pensée juridique allemande, et qui a, pour son premier choix, décidé de nous faire entendre cette sonate pour piano numéro 53 en mi mineur d'Haydn, et qui était interprété ici par Alfred Brendel, qui devait être interprété ici, je devrais dire. Ça s'imposait.
Oui, oui.
Olivier Jean-Jean.
Non, merci. Moi, c'est... j'ai un souvenir très précis. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'étais en Suisse. Il y avait un séminaire interdisciplinaire à Sion. Et j'étais dans la chambre d'hôtel et j'avais mon Walkman à l'époque, hein, avec mon CD. Et puis j'ai mis ça. Et... je l'ai écouté en boucle. Ce troisième mouvement.
Ah oui,
c'est ça. En boucle. C'est Hobbes 1634.
C'est ça. Et voilà. Interprété par Alfred Brendel.
Parce que c'est le meilleur interprète de Haydn. Ça, il n'y a pas de discussion avec moi possible.
Voilà. Et là, on est dans le sommet de la forme, on pourrait dire.
Ah oui.
On est au sommet de la forme et de l'art et de l'esthétique aussi, Olivier Jouangean.
Ah oui, c'est formellement magnifique. Et il n'y a pas de beauté sans forme. Il n'y a pas de politique sans forme, il n'y a pas de droit sans forme. Comme le disait, il me revient une citation d'un grand juriste allemand, Rudolf Jering.
Bien sûr.
Hein, il disait, la forme, c'est la mère de toute justice.
C'est ça. Et il disait aussi, c'est la sœur jumelle de la liberté.
Et c'est la sœur jumelle de la liberté.
Je faisais une allusion dans mon chapeau. Mais derrière tout ça, il y a une crise, et c'est pas nouveau, mais elle a passé à une étape, à l'évidence, ces dernières années, encore plus ces derniers mois. Il y a une crise de la représentation, Olivier Jouangean. Et je voudrais qu'on prenne le temps de décortiquer cette crise de la représentation, parce que elle engage tout le monde. La représentation, c'est aussi une représentation de soi, pour soi. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une scène où on peut regarder les autres.
Alors, je vais répondre. Je vais citer un philosophe que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup travaillé en séminaire avec mes étudiants. C'est Hobbes dans le Léviathan. Dans le grand chapitre 16, qui inaugure une grande pensée philosophique de la représentation, il dit exactement ça. Il dit pas tout à fait ce que vous venez de dire. Pour être en représentation, il faut quand même un autre. Mais on est aussi en représentation de soi. C'est-à-dire que là, nous discutons face à face, mais vous êtes en représentation de vous-même pour moi et moi de moi-même pour vous. Donc, oui, la représentation, c'est d'abord un principe d'humanisation des hommes. Mais c'est aussi, pour prendre une question plus politique et plus actuelle quand même, pour moi, la structure fondamentale de la politique moderne qui s'exprime dans la déclaration 1789, de manière très claire, c'est je prends un terme polinien, de Karl Polanyi, le désencastrement de la société à l'égard de l'État. Et donc, une certaine mise à distance. Ce que Hegel appellera la scission. Ce qu'on voit même chez Rousseau, dont on dit qu'il est l'apôtre de la démocratie directe, il n'aime pas la représentation politique, ça c'est vrai. Mais le citoyen qui délibère, pour délibérer, il faut se libérer de soi-même. C'est-à-dire il faut faire naître, à partir de l'individu, le citoyen que cet individu doit être. Et il n'est pas le même. On ne peut pas plaquer la citoyenneté chez Rousseau sur l'individu.
C'est ça. Le jeu politique n'est pas le jeu non politique. C'est-à-dire qu'on a un quant à soi, on a un soi, oui. On a une vivacité de soi et en même temps, la volonté générale pour Rousseau, c'est quelque chose, c'est la capacité de s'abstraire de soi pour choisir ce qui est bon pour la cité.
Et c'est exactement la raison pour laquelle il dit que bien souvent, et en fait pratiquement toujours, il y a bien de la différence entre la volonté générale et la volonté de tous. Si on n'a pas compris ça, alors j'aimerais qu'on arrête de convoquer Rousseau nourrir un fantasme de la démocratie immédiate.
Mais alors, faisons lien avec ce que vous disiez des réseaux sociaux, Olivier Jouangeant. C'est-à-dire que pourquoi cette dégradation qui est quand même peut-être à mettre en rapport avec le numérique. On parle de populisme numérique, à bon droit, me semble-t-il, parce que le numérique correspond à un véritable bouleversement anthropologique, on peut le dire, et notamment dans le rapport à soi et le rapport à l'autre. C'est-à-dire, quand j'écris un tweet, à qui je parle ? Je parle à personne, dans le fond. C'est un effondrement de l'interlocution. Et ça se prétend, par l'effet de masse, ça se prétend être plus fort, plus puissant que l'espace public lui-même.
Oui, je crois qu'il faut s'interroger sur la question de savoir si les réseaux sociaux sont vraiment consubstantiels à l'espace public ou sont une forme de l'espace public. Parce qu'en même temps, les réseaux sociaux nous privatisent grandement. Et par le fait que on utilise un pseudo, donc je n'ai pas besoin de me représenter moi-même en tant que moi, le jeu que je suis. Je le fais aussi, donc je ne vais pas jeter la pierre. Et que on est enfermé par les algorithmes qui nous gouvernent, comme si, voilà, qui nous disent ce que nous devons aimer, ou ce que nous pourrions aimer, ou ce à quoi nous pourrions nous intéresser. Mais ça, comme on dit, ça fait une bulle.
Oui, c'est ça.
Et donc, un enfermement. Et c'est le contraire de l'espace public.
C'est ça. Et on a l'impression que la représentation cède au règne du direct. Oui. Du direct dans les deux sens du terme. Du direct pris comme une manière d'être, une manière de regarder le monde en direct. Olivier Jouangeant.
Oui, et puis je dirais aussi le direct, quand on parle du direct dans la boxe, quand on voit ce qu'on peut aussi, envoyer comme chose. Bon, il y a aussi des bons usages des réseaux sociaux. Je ne veux pas dire tout est mauvais, c'était mieux avant, etc. Mais, moi je les utilise très peu. Oui. Le seul réseau social, c'est YouTube. Mais je vois dans les commentaires politique, c'est terrible.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre la forme, le support, devrait-on dire, parce que c'est pas une forme, mais le support de l'expression d'une opinion sur les réseaux sociaux, avec la libération de passions et de passions tristes, et notamment c'est quelque chose qu'on revoit, alors qu'on voit chez Trump, mais qui est présent dans beaucoup de ces populismes, qui est le thème de la vengeance, de revenir. De régler des comptes. Dans le fond, dans le Trumpisme et la volonté de revenir comme dans le monde d'avant, il y a aussi l'idée de se venger de ceux à qui on impute les raisons du déclin.
Oui, je crois, mais ça me rappelle un vieux mot, une vieille expression et une vieille pratique médiévale autour du Xe siècle, donc le Moyen-Âge médian, qui est Faustrecht en allemand, ça veut dire le droit du poing, mais le poing, comme je l'ai dit, de la boxe, du direct. Donc, c'est le droit de et on parle de punchline aujourd'hui, on fait que des punchlines. Bon. C'est le droit de la force, et on sait que la force, et ça Rousseau aussi nous le dit, ne peut pas faire le droit, parce que la force n'institue rien. Et on en revient à cette question de l'institution, de la représentation, et de la médiation. Alors, voilà, donc les réseaux sociaux, y a quelqu'un qui l'a dit, Medium is message.
Oui.
On le voit.
Ce qui est très frappant aussi dans notre perception, et Trump y est pour beaucoup, et d'ailleurs ces derniers jours ne l'ont pas démenti, on parle même plus des États-Unis, c'est Trump, c'est une personne qui circule, c'est une personne qui est traversée par des émotions, par des pulsions, par des caprices, et d'ailleurs face à cette personne, il y a d'autres personnes. On a l'impression que la manière dont tout présente les informations aujourd'hui, c'est une extrême personnalisation. C'est Trump, Zelensky, Poutine, et on a l'impression que tout ce qu'il représente, le pays qu'il représente, la politique qu'ils sont chargés de porter, disparaît petit à petit face à cette sorte de promotion de ce que vous appelez l'incarnation, Olivier Jean-Jean.
Oui, c'est ça, c'est le mot que je viens de noter pour... Oui, l'incarnation, c'est-à-dire et ça, c'est alors je pas c'est pas le point Godwin,
non, bien sûr,
on est bien d'accord, compris. Mais il est très frappant de voir que les Hitler sous le Troisième Reich n'est jamais qualifié par les juristes de représentant. Il est l'incarnation, et l'incarnation, c'est précisément ce qui s'inverse profondément. C'est ce processus que j'ai expliqué tout à l'heure de la révolution de 1789, la déclaration de 1789, ce processus de désencastrement de la société civile à l'égard de l'État, la priorité mise, hein, la liberté, c'est le premier principe. Donc la priorité mise sur la liberté de l'individu qui constitue la société civile par rapport à l'État, on a inversé les rôles. L'État ne précède plus la société civile. C'est la société civile qui précède l'État. C'est en tout cas l'idéologie
mais ça, c'est
de 89. Et là, ça s'inverse. L'incarnation, c'est le processus inverse qui tente à restaurer, faire revenir, renaître de ses cendres la vieille idéologie de la monarchie absolue.
Autour du corps du roi.
Autour du corps du roi. Oui, et la célèbre séance de la flagellation, Louis XV, qui dit « Comment ose-t-on faire de la nation un corps séparé de moi ?» Eh bien, comment oserait-on le faire de la communauté populaire, comme disent les nazis, de faire un corps séparé du corps d'Hitler ? Et je dis du corps, pas de la personne. C'est ça la logique de l'incarnation. Alors, encore une fois, Trump, c'est pas Hitler, c'est bien clair.
Non.
En plus, de toute façon, pour moi, il est pas suffisamment intelligent pour penser des choses comme ça. Mais enfin, il y a une tendance. Parce que le populisme, ou la démocratie directe, ou comment on l'appelle, au fond, c'est demander à ce peuple qui ne sait pas ce qu'il veut, mais à qui on va dire tu vas nous dire ce que tu veux alors qu'il ne sait pas, au fond, de s'incarner dans la volonté du chef. Qui a dit... Là, il faut citer un nom qu'on n'a pas encore cité. Mais qui a fait cette théorie de la démocratie immédiate, de l'incarnation? Mais c'est Carl Schmitt.
Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter pour nos auditeurs qui était Carl Schmitt? C'est un auteur absolument central pour notre réflexion de ce soir.
Oui, je pense, parce qu'il est... Parce que... Alors... Premier point de la présentation, il est à droite comme à gauche le penseur, décisif, le penseur central de tout ce qu'on peut appeler populisme. Je ne vais pas m'embêter à dire ce qu'il faut entendre par populisme. Et c'est donc un juriste allemand qui naît, alors je n'ai plus les dates, à la fin du 1890, je crois. Il meurt en 85, il avait 95 ans, donc il naît en 90 et meurt en 85. Et
c'est un esprit très puissant.
Professeur de droit, très cultivé, qui a des traits de génie. Moi, je ne vais pas lui... C'est pas un esprit systématique. Mais ça va par... par traits de génie, quoi.
Il y en a.
Des fulgurances, je cherchais le mot, merci. Il y en a. Bon, il devient professeur, il devient vraiment très important dans les années 20 de la République de Weimar. Et là, il va faire aussi des disciples. Vers 1928, lorsqu'il est professeur à Bonn. Et on a quelques grands juristes qui vont devenir de très grands juristes. Et qui sont les disciples directs de Schmitt.
Y compris en France.
Non, ceux-là, ils sont allemands.
Oui, c'est ça.
Oui, ceux dont je parle sont allemands.
Mais c'est ça, oui.
Mais il y a des disciples français.
Bien sûr.
Oui. Et ceux-là suivaient les cours. Et ils ont été fascinés par Schmitt. Et je peux le comprendre, hein, parce que ça devait être un prof génial. Mais on voit à partir de 28 que Schmitt, il arrête d'écrire sur la littérature et commence à écrire sur la politique dans les revues de ce qu'on appelle la révolution conservatrice. Et ça se radicalise. Et en 32, il écrit dans une revue antisémite notoire. Et en 33, il fait allégeance tout de suite. Et il écrit tout de suite ce qu'on peut appeler la philosophie politique et juridique du régime. Voilà. Et il a été interdit d'enseignement après la guerre.
Et inquiété d'ailleurs par le processus de Nuremberg. Mais c'est le grand paradoxe de la pensée de Carl Schmitt. C'est que c'est un très grand auteur, c'est un esprit puissant, et c'est un grand juriste qui pense le non-droit, mais le dépassement du droit dans l'immédiateté, dans la circonstance exceptionnelle, dans la brutalité.
C'est-à-dire que, oui, je vais revenir sur ce qu'il disait de la démocratie, dans sa théorie de la Constitution de 1928. La démocratie véritable, idéale, c'est celle dans laquelle tout le peuple serait rassemblé pour acclamer. C'est une démocratie de l'acclamation. Mais ça, c'est la foule, c'est pas un peuple. Oui, parce que le peuple lui-même, il est institué. Donc, et c'est cette figure-là, à mon avis, qui travaille consciemment ou inconsciemment les esprits.
Oui, et d'ailleurs, c'est un des grands talents de Trump. Alors, remarque, on parle du Trumpisme. J'ai appelé cette émission le Trumpisme, c'est-à-dire autour d'une personne qui l'incarne. Et c'est un homme de meeting, Trump. C'est un homme d'acclamation. C'est-à-dire, il suscite
il n'est pas le seul.
Un engouement populaire. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas mentionné, mais qui est très important, qui est un mot, qui est un antidote à tout ce dont on vient de parler, c'est le terme de dignité sur lequel les Allemands vont beaucoup insister. Leur grande conclusion, d'après la guerre, ça va être il faut faire de la dignité le véritable pivot de notre système politique et donc juridique.
Oui, bien sûr, je crois que ce sont les premiers à avoir introduit le mot dignité à l'article 1, alinéa 1. De la loi fondamentale de 1949. Donc, la dignité de la personne humaine est intangible. Intangible, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Mais si je peux rappeler ce que je disais tout à l'heure, on voit bien comment, là, on réinverse l'inversion fondamentale, puisque c'est quoi la dignité ? Et c'est la définition de la Cour constitutionnelle. C'est précisément le fait que c'est la qualité de sujet de droit qui est intangible.
On pourrait retrouver cette notion de distance qui parcourt notre conversation. C'est-à-dire, la dignité, c'est la capacité d'entretenir une distance à soi. Et une distance que tout le monde doit respecter, y compris soi-même, d'ailleurs.
Y compris soi-même.
Y compris soi-même.
Bon, ça, évidemment, c'est kantien.
Bien sûr.
Respecte la personne dans toi-même comme en autrui. C'est ça. Donc, oui, tu dois prendre conscience de ta propre dignité. Et la respecter.
Et donc, on retrouve cet axe qui est majeur et qui est la cible même, d'ailleurs, qui est de l'ordre de la forme, de la représentation, de la distance, appelons-la comme on veut.
Non, mais je suis absolument d'accord. Et aussi pour dire que dans la pensée allemande, à la fois dans l'élaboration de la loi fondamentale et dans les commentaires, et les premiers commentaires qui s'en sont suivis dans les années 50, il y avait la dignité est au cœur de toute cette question, parce que respecter la dignité d'autrui, mais respecter la mienne propre. Ça veut dire que je dois me mettre, évidemment, à distance de moi-même. Pour pouvoir respecter la dignité d'autrui, je dois d'abord respecter la mienne.
C'est transitif, même.
Oui, absolument. Et ça suppose, effectivement, des médiations, des formes.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur l'idéologie antijuridique qui a cours en ce moment, notamment aux États-Unis, mais pas uniquement, y compris chez nous et dans d'autres univers politiques. Olivier Jouan-Jean qui a choisi de nous faire entendre cet air d'Handel dans Agrippina, l'air Voi che udite il mio lamento, et qui était interprété en l'occurrence par Jakub Joseph Orlinski. Pourquoi ce choix, Olivier Jouan-Jean ?
D'abord parce que c'est un air magnifique. Il est au milieu du deuxième acte d'Agrippine. Et que j'ai eu l'occasion d'écouter Orlinski et puis Joyce DiDonato dans le rôle d'Agrippine. Et alors pour moi, encore supérieur à Orlinski, le contre-ténor, c'est Franco Fagioli et dans le rôle de Néron. Là, c'est Othon qui dit sa plainte. Othon, oui. Et puis, c'était juste après cette ère, c'était l'entracte.
Et vous étiez...
Et moi, j'étais scotché sur ma chaise, comme on dit, sur mon fauteuil. J'ai eu du mal à me lever, parce que c'était impressionnant.
On est dans le comble de la représentation, Olivier Jouan-Jean,
C'est oui, en plus, c'était une mise en scène de Barry Kosky, qui était absolument incroyable. Donc, là, c'est vrai, oui, le théâtre...
La médiation. La médiation et l'art, lui, l'art en soi est une immense médiation. Mais est-ce que finalement l'enjeu pour positiver notre conversation, nos réflexions, Olivier Jouan-Jean, ne consiste pas à, je ne dis pas réinventer des médiations, mais une fois qu'on a compris le rôle de la médiation, comment est-ce que on adapte? Comment est-ce que les médiations ne cessent de se transformer, ne cessent de se reconstituer elles-mêmes pour continuer de remplir leurs fonctions?
Oui, mais je dirais aussi que pour moi, alors on peut critiquer, on peut pas être d'accord évidemment, mais ce dont je parlais à propos de la déclaration de 1789. Ce que Hegel appelait la scission, Entzweiung, le dédoublement entre État et société, précisément à partir de là, si on accepte cette thèse, la politique moderne est la condition de la démocratie, il faut penser et instituer la médiation entre l'État et la société. Donc ça peut pas se faire dans l'immédiat et l'immédiateté. La représentation, c'est la représentation politique. C'est l'un des modes de cette médiation. Mais, et un mode nécessaire et incontournable. Il y aura toujours de la représentation. Donc, mais il faut la penser. Il faut la saisir. Il faut comprendre pourquoi la question de la médiation est à société. Mais ça passe par des tas d'autres canaux, hein. On peut même parler de médiation de soi à soi.
Mais
la médiation de la justice,
bien ouais. sûr, la médiation de la justice.
Là, il va falloir y
venir. La force de Hegel est par rapport aux contractualistes. Et on recevait oui. Dans ce studio Jean-François Kervégan et Élodie Georgievic et qui insistait sur ce point. C'est-à-dire la force de Hegel, c'est qu'il il comprend que le contractualisme ne justifiera pas la prise en masse d'une politique. Et donc, il fallait, on ne pouvait pas continuer d'opposer, comme c'est le cas aujourd'hui, de plus en plus radicalement, la société, les mœurs contre la politique.
Ah non, il faut pas, justement, la société, elle reste la société de cet État, et cet État, il doit rester. Donc, c'est pour ça que, même s'il se désassocie, je dirais, relativement, il faut bien que l'instance de la médiation soit là. Et s'il y a un philosophe de la médiation, Fermitlong, je crois que c'est pas mal Hegel. Hein.
Oui, bien sûr. Et comment aujourd'hui, à travers toutes les luttes et les luttes qui deviennent structurantes, hein, je pense au féminisme, je pense au statut de l'étranger, de l'immigré, de l'ex-colonisé, est-ce que une des difficultés auxquelles sont confrontées nos sociétés, et qui est d'ailleurs un thème de cette idéologie de droite, voire d'extrême droite, ce serait comment est-ce que on peut retrouver un lien, comment est-ce qu'on peut retrouver une médiation avec, formulée dans des termes relativement nouveaux, Olivier Jean-Jean.
Alors là, moi, je n'ai pas la solution. Hein. si je l'avais, je l'aurais dit. Mais en tout cas, vous venez de poser le problème sur toutes ces questions. Comment faire du lien ?
C'est ça.
Comment faire du lien avec les immigrés ? Comment faire du lien entre les femmes et les hommes ? On s'aperçoit qu'il y a des catégories dichotomiques dont il faut penser le lien possible et les conditions de ce lien. Alors, la médiation, ce que nous
c'est appelons. Ça, la médiation. Alors, une des solutions, il y a une fascination pour la démocratie à la grecque. On la voit revenir par le tirage au sort, par cette idée que la démocratie grecque, c'est une démocratie qui est sans cesse présente à elle-même. Sans cesse présente à elle-même, qui est sans cesse dans le moment de la fondation et qui vit dans ce présent fondateur qui fait sa force. Est-ce qu'il n'y a pas un rêve pour vous, Olivier Jean-Jean, dans cette fascination pour la démocratie à la grecque ?
Si, il y a un rêve, il y a un fantasme, mais ce que je viens de dire, c'est précisément que cette démocratie grecque, que l'on fantasme aussi beaucoup, hein, parce que des citoyens à Athènes, c'est pas tout le monde. Hein. Donc, il y a un caractère aristocratique de cette démocratie qu'il faut pas oublier. Donc, il y a beaucoup de fantasmes. Mais ça n'est plus possible. Nous ne sommes pas une cité grecque. Nous ne sommes pas Athènes. Voilà, il faut historiser quand même. Le mot démocratie, on va pas le trimballer comme ça en parcourant l'histoire des origines de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Les mots politiques et constitutionnels, ils sont le fruit d'une histoire. Ils portent en eux une histoire. Il y a une histoire des concepts, quoi. Hein, pour prendre une formule
bien sûr,
connue.
Bien sûr. Et alors, il y a aussi une dévalorisation aujourd'hui du droit lui-même, du droit, oui. Du vocabulaire du droit, qui devient un vocabulaire abstrait, des arguties, qui détourne, qui est en lui-même dilatoire. Et le droit dont ne parle jamais Donald Trump, d'ailleurs. Il parle de deal, il parle de... Mais il parle de peuple, il parle de... Oui, le peuple américain, mais il parle jamais de droit. Est-ce qu'il n'y a pas une déperdition de... Est-ce qu'il n'y a pas une perte de compréhension chez nos contemporains, Olivier Jean-Jean, de la spécificité de cette médiation en soi, de ce langage qui porte l'histoire en lui, qui porte l'histoire et la fondation en lui et son pouvoir constituant qu'est le droit?
Oui, c'est la décision... Enfin, c'est en tout cas comment une inquiétude vis-à-vis du droit. C'est une détestation de la justice des juges qui sont tous... soit ils sont tous rouges, soit ils sont tous d'extrême droite, ça dépend de quel côté vous trouvez. Mais qu'est-ce que c'est qu'un procès? Je crois que si on entre dans cette question-là, on voit... Ça donne du sens à tout ce que nous avons dit précédemment. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un procès, si ce n'est une mise à distance des parties, hein ? Une mise à distance et une médiation entre les parties. Une médiation et, si possible, une remédiation. Et ça... Et ça suppose des formes. Ça suppose l'institution judiciaire. Ça suppose le tiers qui est le juge. Désintéressé à l'égard des partis, indépendant à l'égard des pouvoirs exécutifs et législatifs. Et évidemment, le juge, il est la figure qui trouble le plus ces imaginaires populistes, entre guillemets. Il est la figure qui trouble le plus parce que lui, on va pas... Alors, sauf à ce qu'on tombe dans un véritable totalitarisme, ou qu'on s'en approche avec Poutine. Mais lui, on va pas le déshabiller des formes, des procédures. Pas comme ça, pas si vite. Hein? Sous le nazisme, le tribunal populaire, le tribunal du peuple, le Volksgerichtshof, là, les formes, elles étaient réduites tellement au minimum qu'on peut même pas parler de formes. Le juge qui, alors, applique le droit, mais c'est trop faible le mot appliquer pour moi. Je l'aime pas du tout parce que ça donne l'impression auprès de ceux qui sont pas, parce qu'ils font autre chose que du droit, tant mieux. Mais que c'est comme si on a une règle et qu'on mesure et qu'on applique.
Une superposition comme ça, un placard.
On sait depuis Aristote que la règle, elle doit être en plomb pour pouvoir s'adapter un peu. Ça s'appelle l'équité. Mais c'est beaucoup plus complexe comme processus. C'est très rare qu'on ait le texte, le cas, et comme le dit mon ami Friedrich Müller, le texte est comme un piège à cas. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Le processus est beaucoup plus complexe. Et il est même beaucoup plus complexe qu'une simple interprétation in abstracto du texte. Là, j'ai dit que j'aimais pas beaucoup le concret, mais enfin,
c'est
il y a
ça.
Quand même des moments où il y a de droit, il faut bien que le concret se rencontre avec l'abstrait. Donc, c'est cette rencontre-là qui fait va-et-vient entre l'interprétation et puis la considération des données de l'espèce, comme nous disons, du cas concret, et que ça, il y a une sorte de, je vais employer un gros mot, mais une sorte de dialectique entre
et puis,
le concret et l'abstrait, le cas et le texte.
Et tout cela se faisant dans un espace un peu idéalisé, qui est celui du tribunal, et qui est une mise à distance. À tout, par quelque côté qu'on regarde un procès, c'est une mise à distance.
Ah oui, absolument. Et peut-être, je dis ça, c'est très intéressant, les questions d'architecture judiciaire. Et quand on est à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, les juges sont placés à hauteur d'yeux de celui qui parle devant eux debout. Eux, ils sont assis, mais donc l'estrade est
très peu haute.
Très peu haute, voilà. Oui, il y a quand même de la distance parce qu'ils ont la robe rouge, la toque, etc. Mais on voit que c'est une question quand même qui travaille et qui est importante. Mais évidemment, c'est une mise à distance. Et si on n'accepte pas ça, je crois que c'est ce qui tourmente les populistes, hein, de tous les côtés. même s'il y a des populistes du centre. Mais toute forme, c'est une mise à distance. Les formes sont séparées.
Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est extrêmement important et qui nous éloigne pas du droit, c'est la science, c'est l'idée de la science, c'est la liberté de penser, ce sont les libertés académiques, dont on voit qu'elles sont pas loin derrière les juges. C'est-à-dire que il y a cette liberté qui est beaucoup plus qu'une liberté des chercheurs, qui était la condition de notre liberté à nous tous, Olivier Joangean.
Ah oui, mais ce qu'on voit, c'est qu'elle est attaquée par en haut et par en bas, des deux côtés. Il y a une sorte d'étau.
Oui.
Y a des exemples récents. Voilà. L'intrusion dans un cours ou dans une conférence universitaire d'étudiants qui l'interdisent, ou d'activistes qui l'interdisent. C'est une atteinte aussi à la liberté académique.
Oui, elles viennent de toutes parts.
Et puis elles viennent d'en haut aussi. Elles viennent, je vais pas revenir sur ce qui se passe aux États-Unis, ça tout le monde le sait. Mais il y a aussi toute la superstructure techno-bureaucratique, qui n'est pas facile à manier, enfin, il n'est pas facile d'y trouver son espace de pleine liberté.
Vous faites une distinction, on terminera par là, parce que c'est une distinction importante sur qu'est-ce qui distingue pour vous, Olivier Joangean, un texte, une formalité bureaucratique et une protection par le droit?
Oui, quand je parle de forme juridique, je ne pense pas aux formalités.
Non.
La forme juridique, c'est celle qui a pour objet et autant que possible pour effet, comme disent souvent les juristes, pour objet et pour effet, d'apporter aux justiciables, aux administrés, aux citoyens, les protections nécessaires au libre exercice de leur activité. Donc c'est pas les formalités, j'ai oublié de signer là, ça c'est rien, il faut bien les distinguer, parce que c'est pas la formalité bureaucratique, c'est la forme juridique, c'est pas la formalité bureaucratique.
Est-ce que c'est pas ce sens profond de la loi comme protection que nous avons perdu par la multiplication, par cette sorte de cancérisation de la réglementation, Olivier Joangean?
Oui, mais je bien sûr, mais c'est c'est pas la faute des populistes.
Bien sûr, non.
Ça c'est plutôt le système de production législative
qui
s'est emballé.
C'est ça.
Il y a longtemps.
Et qu'il y a aussi un travail à faire de ce côté-là pour rendre le droit plus lisible, plus efficace, pour qu'on puisse sentir sa protection.
Et peut-être plus abstrait.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier Joangean. Je rappelle le titre de votre livre, Justifier l'injusticiable, l'ordre du discours juridique nazi. Esprit de justice est terminé. Ce soir, il y avait la technique Ruben Carmazin. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la préparation, Juliette Marcaillou. Une émission d'Antoine Garapon.